par les champs et par les grèves.
Des histoires, des rencontres, des débats qui nous parlent de liens entre terre et mer, pour découvrir, pour mieux comprendre les multiples visages de l'agriculture littorale. Aujourd'hui, c'était La Patate, épisode 1, une petite révolution.
On est où là, Hervé ?
On est à l'école de musique, à Châteaulin. On est à côté d'un des derniers bâtiments qui témoigne de cette grande épopée qu'a été la culture de la pomme de terre dans l'ouest du Finistère. D'ailleurs, ça s'appelle le germoir. De quoi nourrir ta passion de la patate, hein, Idéfix ?
Oui, c'est vrai, mais ma passion est sélective. Ce qui me passionne, c'est la pomme de terre avec un grand P, et même avec un double P, comme plant de pomme de terre. C'est-à-dire ce que les agronomes et les paysans appellent la pomme de terre de sélection, celle qui est cultivée pour être replantée par des exploitants dans le monde entier. Il faut qu'elle soit parfaite, sans maladie, triée sur le volet, emballée dans des super conditions, à l'abri du chaud, du froid, des chocs.
Oui, je comprends bien, mais dans le Finistère, c'est l'élevage qui domine. Avec un peu de légumes sur le littoral, c'est vrai. Alors pourquoi s'intéresser quand on est chercheur à la station agronomique de Quimper à une culture qui a pratiquement disparu, et en plus depuis longtemps ? T'as 20 secondes.
Oh là là, eh bien parce que ça a été quelque chose d'essentiel ici. Quand je dis ici, je parle de tout l'ouest du Finistère, une petite révolution. La pomme de terre de sélection débarque en 1922 et 10 ans après, plus de 1000 fermes en cultivent, rien que dans le bassin de Châteaulin. Cette histoire nous raconte bien des choses sur la façon dont on a évolué au cours du XXe siècle vers l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui et qui est dominée par l'exportation des productions animales.
Merci pour ta concision.
Y'a pas de patate en fer, y'a pas de patate en bois, ah 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 ah. Y'a pas de patate en fer, y'a pas de patate en bois. Mais y'a de la patate en fer, des tas de patates en tas, en haut de patate. Et y'a de la patate en fer, des tas de patates en tas.
Résumer la saga de la pomme de terre de sélection en 4 épisodes. C'est le défi qu'Alix et moi essayons de relever. Heureusement, Pierre Gral est passé par là. Ce professeur du lycée Jean Moulin à Châteaulin a réalisé un travail impressionnant d'historien. Il a collecté inlassablement archives et témoignages. De ce patient travail est né l'ouvrage « Quand Châteaulin avait la patate », publié en 2010.
Déjà par ma profession, je me suis intéressé à ce qui se passait dans le secteur, dans la région. Et d'autre part, à ma retraite, j'ai fait partie des mémoires de Châteaulin.
C'est une association qui est assez active, j'ai l'impression.
Oui, enfin, on essaie de faire des expositions, des ouvrages également. Et là, j'ai rencontré donc Monsieur Jean Février, qui, fin des années 40, années 50, il est devenu négociant en pommes de terre de semences. Il avait donc amassé un certain nombre de documents et il voulait que ces documents puissent devenir, par le jeu de la rédaction, donc un livre. Et j'ai accepté de, de mettre ça en forme et nous avons donc de concert sillonner un peu la campagne d'une part et étudier l'évolution de cette culture qui pour la région a été très bénéfique, disons jusqu'aux années 60, avec ensuite malheureusement un déclin lié à une évolution plus générale de l'agriculture.
Eh oui! L'évolution de l'agriculture dans le Finistère a suivi une trajectoire singulière. À la différence de ce qu'on peut observer dans le reste de la France, la population agricole y reste très dense jusqu'à l'entre-deux-guerres. Plus de la moitié des actifs y sont encore agriculteurs en 1931. Ce qui domine, c'est la polyculture-élevage, c'est-à-dire un système qui combine plusieurs cultures et au moins un type d'élevage. Une grande partie des produits de la ferme est consommée sur place par la famille et par les animaux. La pomme de terre y occupe une place de choix.
Si je te suis bien, il se passe en fait assez peu de temps entre la première révolution dans les années 20 et la seconde dans les années 60 alors.
Tout à fait, et c'est ce qui frappe les observateurs à l'époque. Comment ça se fait qu'on soit resté aussi longtemps dans l'archaïsme, avec des guillemets, et qu'on ait ensuite si vite sauté dans la modernité ? Eh bien parce que les germes sont déjà là. D'abord, les exploitations sont de petite taille, autour de 10 hectares, mais la majorité des agriculteurs sont propriétaires, ce qui est bien plus que dans le reste de la Bretagne. Ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les écoles de Quimper, Pont-l'Abbé, Châteaulin ou Douarnenez. Et les organisations professionnelles, les coopératives d'achat et de vente, sont aussi bien développées, en particulier autour du célèbre Office central de Landerneau.
Bonnes gens, je crie cela. Essayez donc, vous verrez ça. À l'eau, en frites, n'importe comment. Mon tubercule est nourrissant. La patate, un aliment nutritif et excellent. Mangez-moi, mesdames, messieurs, vous vous porterez mieux.
Mais pourquoi ici? Pourquoi à ce moment-là? La culture du plant de pomme de terre, c'est une culture savante, une culture d'excellence. Il faut donc des conditions favorables sur le plan du climat, des sols, mais aussi des compétences et des initiatives. Il y a donc bien quelqu'un ou quelques-uns derrière tout cela.
Derrière ça, il y a évidemment toute la volonté de... on ne peut pas dire des autorités, mais en tous les cas de professeurs d'agronomie, d'obtenir des semences... saine et de qualité. Et la région ici était considérée comme particulièrement intéressante dans la mesure où elle était ventilée avec le vent d'ouest. Donc ça avait tendance à... Et puis pas trop chaude non plus, ni trop froide, ça éliminait les pucerons. D'où le choix du site par le professeur Dubois qui à l'époque, Dubois, ça s'écrit B-O-Y-S. Et c'est lui qui s'est intéressé, donc, dès 1922 à la région et qui a cherché des agriculteurs capables de mettre sur pied ce genre de culture, de plants sélectionnés, contrôlés. Et il a trouvé quelques agriculteurs qui étaient en fait des notables dans Châteaulin. Il y avait... Charles Goise, entre autres, qui possédait une ferme aujourd'hui, c'est en pleine ville, l'espace où s'est développée cette ferme, qui était la ferme de Kerjean. Et ce monsieur-là avait des parents sur les communes voisines qui ont participé, donc... au démarrage du syndicat, et d'autres agriculteurs des communes de Saint-Ségal, de Castes, puis de Plomodierne, Ploévin, Plébin aussi, plus à l'intérieur des terres. Disons qu'en 1926, au moment où le syndicat s'est créé, il y avait 83 adhérents.
Dont une partie était issue de la même famille.
Voilà. Oui, oui. Donc un des Goises a été maire de Trégarvan, par exemple, qui est une petite commune en aval, au bord de l'Aulne.
Châteaulin, Saint-Nic, Castes, Saint-Segal, Ploévin,
Locronan,
Bezec-Cap-Sizun,
Guilherme-sur-Goyen,
Couinec, Clonévé-Porzay,
Corentin-Tanguy,
Jean-Louis
Gouache, André Trélu, Henri Tessanière,
la gare de Kéménévin, Kerléo,
José Anne-Marie
Pierre Lambert,
Régalor, Henri Lecoff,
Tidouard,
Jean Cavella,
Ménès
Nicolas Asquette, Gabriel Cornec,
Tréfintec,
Pierre Yvna,
Gabriel
Kerervé,
Jean
Pouquet, Gabriel Villan. La diffusion de cette nouvelle culture repose jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale sur la mobilisation d'un petit noyau d'agriculteurs aisés et instruits et sur leurs réseaux familiaux. C'est le cas d'Hervé Marchadour, de la ferme de Kerléo à Castes, un homme épris de modernité et déjà prospère. Hervé Lelgouache, petit-fils d'Hervé Marchadour.
Il a été dans une école d'agriculture. Alors là, attention, on est avant 1900. Et à Lézardeau, ou Lézardeau, à Quimperlé. Et M. Kerdéves était son collègue d'école. Donc ces deux gars-là prenaient le train. Ouais, jeune homme, est-ce que c'est pas cette école, hein, qui a donné cette envie à ces jeunes de prospérer. Bon, j'apprends quand Châtelain avait la patate. Un des grands directeurs du syndicat était Monsieur Gonidec, lui aussi de la ferme de Trézulien à Tréboul, mais sa mère venait de Kerléau. Et il racontait que lorsqu'il venait ici à Kerléau le dimanche prendre le café, quand il rentrait à nouveau à Trézulien, leur mère, surtout, et parce que leur père en plus était le maire de Tréboul, leur mère donc née à Kerléau ici, et on l'appelait la tante Trézulien, qui avait son brevet supérieur. Elle pouvait attester. Et elle leur dit, elle était furieuse de voir le niveau que prenait Kerléau par rapport à eux, à la ferme. Elle avait dit, c'était catastrophique, disait M. Gonidec, quand on rentrait chez nous, elle trouvait tout moche, tout nul, qu'on était des incapables par rapport à son frère. Parce qu'ici, c'est vrai, ça devenait tellement délirant.
La culture de ce fameux plan sélectionné était... C'était entre les mains des adhérents du syndicat.
Malgré tout.
Certains producteurs, à côté de ça, commercialisaient des pommes de terre qui avaient, disons, un bel aspect, parce qu'ils avaient fait le tri auparavant, mais on considérait que leur qualité était inférieure. Et la qualité, donc, châteaulinoise était... tout à fait exceptionnel, paraît-il.
Qui dit matin de ce pays, qui fait de moi votre industrie, sachez toujours me bien traiter, pour que partout je sois mangé, la patate en aliment nutritif et excellent. Mangez-moi, mesdames, messieurs, vous vous porterez mieux.
C'était La Patate, une série documentaire en 4 épisodes, réalisée par Alix Levin et Hervé Skividan, avec aujourd'hui Pierre Graal et Hervé Lelgouache. Musique, les élèves du Germoir, école de musique de Châtelain, le groupe Machin, Haute Patate, le Stankvian Social Club interprétait pour les besoins de cette émission « La patate, c'est la santé » sur des paroles de Jean Février et une composition originale d'Henri Salvador. Merci à eux tous. Prochain épisode, l'âge d'or du plan de pommes de terre.
Par les champs et par les grèves, une série documentaire produite par les chercheurs du projet « Paroles et chemins de l'agriculture littorale » et par Radio Évasion, avec le concours de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne et le soutien financier de la Fondation de France, de la Région Bretagne et de l'Institut National de la Recherche Agronomique. À retrouver sur parchemin.bzh, radioévasion.net et plumefm.net.